Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, mais aussi Margot Le Ridon et Rosalie Suc, mise en onde par Florent Bujon et réalisée par Benjamin Huy. Comme chaque semaine, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Difficile de venir jusqu'ici avec la grève.
Eh oui.
Et là quand même, merci Marc.
Un peu apocalyptique.
Allez, en début de semaine, les ministres des Affaires étrangères et des armées se sont rendus à Moscou pour y rencontrer leurs homologues. L'objectif, éviter les incompréhensions, les incidents et les frictions, a expliqué le chef de la diplomatie française, ce à quoi son homologue a répondu avec un message d'ouverture. Des progrès sont considérés comme possibles et nécessaires, a lancé Sergueï Lavrov. Alors, ce début de rapprochement et la concrétisation de l'initiative d'Emmanuel Macron, qui fin août avait invité le chef du Kremlin au fort de Brégançon, affichant sa volonté de renouer des liens de confiance avec Moscou. Mais Vladimir Poutine a-t-il réellement l'intention de répondre à cette main tendue? Est-il réellement enclin à faire des concessions? Le rapprochement sera-t-il possible et sous quelles conditions? Pour évoquer ces questions, deux invités, Tatiana Castruva-Jean, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice du Centre Russie Nouveaux États Indépendants de l'IFRI, l'Institut Français des Relations Internationales. À vos côtés, Cyril Brett, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous maître de conférence à Sciences Po Paris et co-auteur du blog EurasiaProspective.net. Avant d'ouvrir cette page concernée à ce rapprochement entre la France et la Russie, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres, le journaliste que l'on reçoit ce matin nous revient d'Irlande. C'est Clément Dagnès, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes journaliste à l'Express. Vous revenez donc d'Irlande. Alors, je rappelle peut-être quelques éléments, même si c'est des choses qu'on commence à connaître un petit peu. Mais depuis le référendum de juin 2016, cette frontière irlandaise est au cœur des négociations sur le Brexit. Le fameux backstop continue aujourd'hui de diviser le Parlement britannique. Cette mesure qui vise à assurer le maintien de l'Irlande du Nord dans le marché unique européen avant que soit défini un nouveau cadre. Mais c'est évidemment un dispositif qui cristallise un certain nombre de tensions avec ceux qui d'un côté craignent que la mesure ne s'éternise, ceux qui craignent le retour carrément d'une frontière entre la République d'Irlande et d'Irlande du Nord. On va essayer de voir un peu comment en Irlande on perçoit les choses, que vous avez fait vous. Clément Dagnès, depuis l'arrivée de Boris Johnson, le blocage politique et institutionnel a franchi une nouvelle étape et tout se passe à Londres. Pourquoi aller maintenant en Irlande alors qu'aujourd'hui tout se passe à Londres?
Tout à fait, mais c'est vrai que c'est en Irlande que ça bloque au niveau des négociations avec l'Union européenne et c'est un peu le cœur du problème. On a vu que c'est à cause de l'Irlande, de la frontière irlandaise, que Theresa May n'a pas réussi à faire passer son accord par trois fois refusé par le Parlement britannique.
Donc il faut aller sur place. Vous expliquez dans le début de votre papier que récemment le quotidien Irish Times révélait le contenu de certaines archives américaines récemment déclassifiées. Et parmi elles, il y a un échange entre Bill Clinton et John Major en 1995 à propos des conséquences, des effets, des bénéfices tirés du cessez-le-feu observé à l'époque par l'IRA. Quel est le contenu de cet échange?
Oui, c'est une conversation déclassifiée de la bibliothèque de Bill Clinton et je pense que le Irish Times a eu du flair en allant fouiller de ce côté-là. Donc c'est un simple échange entre deux chefs d'État, comme il y en a souvent et comme il y en a toujours. Et Bill Clinton, en politicien, lui demande « Alors John, est-ce que tu as des bénéfices politiques du fait que depuis 6 mois, il n'y a plus de problème avec l'IRA, on a un cessez-le-feu ?»
Et John Major de répondre.
Et lui de répondre « Pas du tout. Ici, pour les gens d'ici, l'Irlande, c'est une île comme une autre. »
C'est une île comme une autre et en gros, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe à l'extérieur.
Non, on ne regarde pas au-delà de la Grande-Bretagne, alors même que l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni.
Mmh. Est-ce qu'il y a aussi derrière ça quelque chose qui relève d'un sentiment anti-anglais?
Du côté des Irlandais, la plupart de mes interlocuteurs, que ce soit des experts ou que ce soit des gens que j'ai interrogés tout simplement dans la rue, comme on le fait souvent dans notre profession, m'ont dit « on est passé à autre chose ». Il y en a un qui, un de mes interlocuteurs qui m'a dit « Nous n'en sommes plus au point où nous voulons voir brûler l'Empire britannique ». Voilà, tout ça, ça a maintenant presque 100 ans. Et donc, ils sont passés à autre chose sur un côté vindicatif contre les Britanniques.
Alors aujourd'hui, ce gouvernement irlandais, il est mené par Leo Varadkar, qui est évidemment catégoriquement opposé à l'idée d'un abandon du backstop. Et visiblement, c'est un sentiment qui est assez largement partagé hein, sur place. Il n'est absolument pas question de lâcher sur ce point.
Non, il y a vraiment une unanimité politique. Les autres partis, les partis d'opposition, les syndicats, la société civile, tout le monde est sur la même ligne en Irlande. C'est quelque chose de vraiment frappant. Il a fallu que je me rende sur place pour vraiment m'en rendre compte, en l'occurrence. Et l'un de mes interlocuteurs m'a même dit on préfère un no deal que le backstop, que le retrait du backstop. C'est dire à quel point ils sont sur des principes sur lesquels ils ne veulent, des positions sur lesquelles ils ne veulent pas transiger.
Alors, il y a peut-être une option qui permettrait de contourner précisément ce problème et qu'on a régulièrement envisagé depuis juin 2016 et ce fameux vote pour le Brexit. C'est tout simplement de créer une frontière douanière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Est-ce que c'est une option qui est envisageable, envisagée même, pourquoi pas?
Alors, jusqu'à présent, c'était niette, parce que les conservateurs avaient besoin du DUP, qui est le parti unioniste ultra-conservateur qui leur permettait, d'Irlande du Nord, qui leur permettait d'avoir une majorité au Parlement à Westminster. Theresa May ne pouvait pas faire sans eux. Donc, son accord prévoyait que, après un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, une fois les négociations commerciales ouvertes, si ces négociations sont dans la passe, qu'on maintienne l'ensemble du Royaume-Uni dans l'union douanière, pour pas qu'il y ait de problème d'échange de marchandises entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et la petite musique qui commence à se refaire entendre, c'est « nous ne laisserons finalement, au bout du bout, si nous sommes encore dans l'impasse, que l'Irlande du Nord dans l'union douanière ». Et ce qui veut dire que, dans ce cas-là, Boris Johnson, le gouvernement fait une croix sur le partenariat politique avec le DUP. Mais de toute façon, il n'a plus de majorité actuellement au Parlement britannique et nous allons vers des élections.
Pendant très longtemps, Clément Daniès, le retour d'une frontière en Irlande paraissait totalement inconcevable. Aujourd'hui, on voit bien que tout est possible. Est-ce que à Dublin, on se prépare à la perspective d'un retour de cette frontière?
Alors totalement, et c'est depuis la semaine dernière, très précisément, et par coïncidence, c'est au moment où j'étais de passage à Dublin, le ministre des Affaires étrangères, qui est aussi le ministre du Commerce chez eux, a très clairement dit, voilà, nous dirigeons vers un retour de contrôle à la frontière. Nous ne savons pas encore sous quelle forme, mais le marché unique européen est plus important que tout pour nous. Nous ne transigerons pas là-dessus. Et depuis, ça a été répété par le Premier ministre et par tout le gouvernement, encore à nouveau cette semaine par le ministre de l'économie.
Et alors, comment on fait très concrètement? Parce que vous rappelez dans votre papier, Clément Daniès, que par exemple, si on regarde les chiffres sur 2017, il y a eu 475 000 conteneurs de fret irlandais qui sont passés par les ports britanniques, dont près de la moitié, dites-vous, allait en direction du continent. Si cette frontière fait son retour, si on a à nouveau des contrôles, comment est-ce qu'on va s'organiser? Est-ce qu'on va emprunter un autre circuit maritime? Est-ce que, enfin, il y a des alternatives? Enfin,
Alors là-dessus, clairement, l'Irlande n'est pas prête, puisque des alternatives, les chambres de commerce irlandaises y réfléchissent. Il y a comme route alternative celle qui irait de Cork, un port du sud de l'île d'Irlande, pour Cherbourg, par exemple, qui serait le port continental le plus proche. Mais ces ports-là n'ont pas encore véritablement les capacités. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit pour Cork. Et pour l'instant, ce qui reste privilégié, c'est ce qu'ils appellent le Lamb Bridge. C'est le fait que les camions partent de Dublin pour rejoindre le Pays de Galles, traversent toute l'Angleterre ensuite pour rejoindre Douvres, puis Calais. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Et on n'a pas pour l'instant d'alternative à cette route-là. Donc, on sait juste que ce sera très difficile, voire un poil catastrophique si du jour au lendemain, on se retrouve avec une sortie sans accord.
Et pourtant, on a quand même la conviction qu'à long terme, ça ira pour l'Irlande. Ça se passera bien et même ce sera peut-être bénéfique économiquement. C'est la conviction qu'on a.
Oui, et ça c'est un aspect un peu étonnant auquel on s'attend pas forcément. Tout le monde est d'accord en Irlande pour dire que ça va être très difficile au début. Ça sera difficile si c'est un simple Brexit, ça sera extrêmement difficile si c'est un Brexit sans accord. Mais il y a l'idée que passer une année, deux années, très difficile, notamment pour certains secteurs, parce que certains secteurs seront plus impactés que d'autres, comme le secteur agricole, il y a des opportunités à saisir.
Lesquelles ?
L'Irlande, depuis une vingtaine d'années, a profité de sa présence dans le marché européen pour devenir un point d'entrée pour toutes les multinationales américaines. C'est devenu une économie de services. Ils permettent à beaucoup d'entreprises à l'extérieur de l'Europe de commercer avec le reste de l'Europe. Il y a la culture anglo-saxonne, il y a l'anglais évidemment, il y a les facilités fiscales qu'on connaît, les taxes assez basses pour les entreprises. Et ça, c'est des choses qui ne vont pas disparaître avec un Brexit, et même s'il est sans accord.
L'Irlande restera la porte d'entrée des États-Unis vers l'Europe. En fait, c'est ce qu'ils pensent, c'est une des choses, un sentiment très fort.
Ils en sont convaincus.
Ouais. Et quand on leur demande de faire une forme de bilan de l'adhésion à l'Union européenne, c'est évidemment un plébiscite. Tout le monde dit, reconnaît que d'abord ça a été extrêmement bénéfique et que par ailleurs ça a changé en profondeur tout. L'économie, la société, enfin c'est un changement profond et 100% bénéfique, c'est ce qu'on entend.
Ils en sont en tout cas tous convaincus. Il y a un chiffre qui est impressionnant. Actuellement, 93% des Irlandais sont europhiles. Et c'est un chiffre qui n'a cessé d'augmenter avec le Brexit. Le Brexit a renforcé cette conviction. Elle leur a pas fait douter de leur adhésion à l'Union européenne en se demandant s'il fallait pas rester plutôt avec le Royaume-Uni.
Il n'y a pas de pays plus europhile dans l'Union européenne. 95%, je pense que ça doit être
93% actuellement. Mais ça peut encore monter.
Ça doit être un maximum. Oui. Ouais. Clément Daniez, on est en 2019, il y a tout juste 100 ans, c'était le début de l'insurrection qui avait mené l'île à la partition. C'est une chose qu'on évoque de temps en temps, l'idée possible d'une réunification. Qu'est-ce que vous avez entendu ? C'était quoi la musique sur la question de la réunification sur place ? On en parle, c'est un débat, c'est un sujet sérieux ?
La réunification, c'est un sujet sérieux, mais ce n'est pas un sujet de court terme. J'ai pu en parler notamment avec une spécialiste de ces questions-là, une historienne au Trinity College. Et clairement, il y a une opportunité historique peut s'ouvrir avec le Brexit d'une réunification à un moment ou à un autre. Pas à court terme, parce que le gouvernement irlandais... ne tient pas à ce que cela vienne parasiter les négociations. Et il sait très bien, ce gouvernement, qu'il a besoin de l'accord des unionistes protestants, qui, pour l'instant, sont encore majoritaires en Irlande du Nord. Mais les dynamiques démographiques font que, d'ici quelques années, ce seront les catholiques qui seront majoritaires. Néanmoins, on ne peut pas se satisfaire d'une majorité à 51-52% pour réunifier l'Irlande. Mmh. On irait tout droit vers des troubles politiques.
Donc c'est beaucoup trop tôt. Il y a un autre point sur lequel on peut peut-être regarder ce qui se passe, c'est la question de la possibilité ou non de violence. Il y a 98 évidemment cet accord du vendredi saint qui met fin à 30 années de violence et plus de 3000 morts ce conflit. Est-ce qu'il faut craindre un retour des violences ? Comment se positionne aujourd'hui le camp précisément des républicains irlandais, le camp des unionistes protestants ? Est-ce qu'on sent des raidissements ?
Clairement, les unionistes, pour eux, c'est niette, c'est non. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils tiennent encore à rester au Royaume-Uni, qu'ils préfèrent le retour d'une frontière dure au milieu de l'Irlande qu'une frontière sur la mer d'Irlande entre l'île d'Irlande et la Grande-Bretagne. Du côté des Républicains, évidemment, en Irlande du Nord, on sait que c'est le programme du Sinn Féin depuis toujours, que l'Irlande du Nord soit unie au reste de l'Irlande. Voilà.
Le 30 août dernier, Clément Daniez, vous avez eu l'occasion de rencontrer l'ancien Premier ministre travailliste Tony Blair, qui a été en poste de 1997 à 2007. Il prône, lui, on sait depuis longtemps, l'organisation d'un nouveau référendum. Et en même temps, il a l'air d'avoir parfaitement conscience que ça ne réglerait pas tout.
Oui, il voit bien que tous les problèmes politiques en Grande-Bretagne, enfin qu'ils sont nombreux et qu'ils ne se résument pas seulement. Néanmoins, il pense que ce dont a besoin le Royaume-Uni, c'est d'un référendum avant des élections. Il faut résoudre ce problème, et la seule façon de le faire, puisque c'est bloqué au Parlement, on le voit depuis plusieurs années maintenant, c'est d'appeler à nouveau les Britanniques aux urnes.
Et est-ce qu'il a confiance en son parti, en son camp? Quel regard porte-t-il, par exemple, sur Jeremy Corbyn?
Évidemment, un regard assez critique, puisque lui, c'est Jeremy Corbyn, c'est la gauche radicale. Hein. On compare souvent à Jean-Luc Mélenchon, et on sait que Tony Blair, c'est la gauche libérale, hein, social-démocrate. Il a un regard très dur sur Jeremy Corbyn. Il fait attention aux mots qu'il utilise. Je lui ai demandé s'il voterait pour le Labour aux prochaines élections, sachant que c'est mené par Jeremy Corbyn, peut-être avec un programme de gauche radicale. Et il s'est contenté de dire « je suis toujours au Parti travailliste ».
Alors, il y a un autre acteur de la vie politique britannique que vous avez rencontré, mais qu'on connaît moins, Clément Daniel, ou même qu'on connaît pas du tout, c'est Sir Ivan Rogers, qui est un haut fonctionnaire un peu de l'ombre, ancien représentant de l'Union à l'Union européenne, ancien conseiller de Tony Blair, mais aussi un collaborateur de Boris Johnson du temps où il était ministre des Affaires étrangères. Il a pas l'air d'avoir beaucoup d'estime pour Boris Johnson.
Non, pas du tout.
Pas franchement. Alors, il le dit avec ses mots, hein, c'est évidemment. Mais
oui, ce que m'expliquait Ivan Rogers, c'est que quand on expliquait, lui, il était le haut représentant donc à Bruxelles de la Grande-Bretagne, et donc il a pu fréquenter pendant quelques mois Boris Johnson comme ministre des Affaires étrangères. Et il expliquait dans les réunions, quand on lui disait, voilà, ça c'est pas possible parce qu'il y a telle raison chiffrée, tel mode de prise de décision en Europe. Il en faisait fi, il disait « mais non, vous tenez à nous faire peur, ça va pas se passer comme ça, je n'y crois pas ». C'est un point de vue strictement politique et des oreilles fermées quand on lui donnait simplement des faits.
Mais un point de vue politique, précisément, Clément Daniel, il a eu l'occasion, lui, de travailler avec Boris Johnson. On a parfois l'impression que, précisément, il n'a pas forcément une opinion parfaitement tranchée, que c'est un pragmatique, il a compris quoi des positions de Boris Johnson sur le Brexit?
Selon lui, Boris Johnson n'a que faire des conséquences économiques du Brexit pour le Royaume-Uni. Il est sur une vieille ligne souveraine du Royaume-Uni qui doit donc reprendre le contrôle par rapport à toutes les possibilités, toutes les responsabilités qui ont été données à l'Union européenne. Ivan Rogers, il dit attention, ça marche pas comme ça. Si on sort de l'Union européenne, ceux qui vont nous apposer leurs décisions, parce qu'on ne sera plus à la table des négociations, notamment au Conseil européen.
Et par ailleurs, il dit aussi que Boris Johnson a une énorme responsabilité dans le Brexit, que il va jusqu'à dire que si Boris Johnson n'avait pas fait campagne pour le Brexit, on n'en serait pas là.
Oui, c'est sa conviction, parce que Boris Johnson est un homme charismatique. C'est quelqu'un qui est très populaire au sein de l'électorat conservateur. J'ai pu le constater à de nombreuses reprises. Il a une aura, il se fait entendre, sauf qu'il n'y a pas le sens de la responsabilité derrière. Et c'est pour ça que beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'intellectuels et de Britanniques en veulent à Boris Johnson.
Et cet homme, Ivan Rogers, ne croit absolument pas la possibilité d'un accord d'ici le 31 octobre. Il connaît bien les choses, hein, de part et d'autre.
Non, il y croit pas. Il voit bien que le projet européen est beaucoup plus important que le fait de transiger pour Bruxelles avec Londres sur ces questions.
Merci beaucoup Clément Daniès d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Express et qu'on peut vous lire précisément dans les colonnes de l'Express et vous retrouver aussi sur le site internet. Merci infiniment. There's a tropical breeze there, blowing through the palm trees there. Birds of paradise fly, an island shrouded in mist. What are we looking for? That's if it does exist. I know that the crew are dying of hunger, but I'm sure it can't take much longer till we can see forever.
Allez, on quitte
d'Irlande, on va prendre la direction de la Russie, France-Russie, un rapprochement sous condition, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
En début de semaine, les ministres français des Affaires étrangères et des Armées, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, se sont rendus à Moscou pour y rencontrer leurs homologues, Sergueï Lavrov et Sergueï Shoigu. Cette rencontre s'inscrit dans la nouvelle dynamique lancée par Emmanuel Macron le 19 août dernier au fort de Brégançon. Souvenez-vous.
Je sais tout ce qui a pu nous séparer, les malentendus des dernières décennies. Je sais aussi les débats qu'il y a sur la relation avec l'Occident. Je sais une autre chose, c'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. C'est pourquoi, dans cette recomposition qui est la nôtre, ce à quoi je crois, c'est que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie. Et la France y a un rôle, elle y jouera tout son rôle.
Voilà, la France a un rôle, elle jouera tout son rôle, mais est-ce que ce rapprochement avec la Russie est vraiment possible? Le pouvoir russe est-il disposé à remettre à plat sa relation avec Paris, qui n'a pas été sans heurts ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire? Et puis quels seront les dossiers aussi à surmonter pour y parvenir? Deux invités, Tatiana Castoué-Vajan et Cyril Brett sont avec nous ce matin, en partenariat comme chaque vendredi avec Le Monde. Marc Semo, on va commencer avec vous. La dernière rencontre dans ce format-là, qu'on appelle 2+2, elle remontait à 2012. Depuis, il y a eu de très très nombreux différends. Ah, vous me faites non, alors vous allez me corriger. C'est ce que je pensais. En tout cas, depuis, il y a eu de très nombreux différends. Évidemment, l'Ukraine, évidemment, la Syrie, on en parlera. On se souvient comment, avec François Hollande, les choses avaient été extrêmement compliquées. Aujourd'hui, on voit cette ambition d'Emmanuel Macron de tenter finalement un coup diplomatique. Mais évidemment, ça sera extrêmement difficile à relever. Marc Semo. Oui. 2+2, c'était pas hier 2012.
Non, c'était en 2014, juste avant
d'accord,
la Crimée, et autant à partir de là, ça a été totalement gelé. Et de fait,
en tout cas, Paris risqué, difficile.
Voilà. Alors, le projet est ambitieux parce que c'est un véritable reset de la relation avec Moscou qu'aspire Emmanuel Macron. Ses trois prédécesseurs avaient tenté les choses, avaient tenté le coup. Hein, c'est pas vrai qu'on ne parle pas à la Russie. On n'a pas arrêté de parler à la Russie, mais il n'y avait jamais eu de résultat. Et probablement, c'est ce défi. Hein, personne d'autre n'y a réussi, qui tente le chef de l'État. Alors, c'est vrai qu'il a des atouts en main, il y a un alignement de planètes favorables, notamment sur le dossier ukrainien qui empoisonne les relations depuis 2014. Le président ukrainien Zelensky a fait des ouvertures, Poutine les a prises en compte, il y a eu un échange de prisonniers, il devrait y avoir vraisemblablement à Paris un sommet au format Normandie, Allemagne, France, Russie, Ukraine, et donc les choses avancent. Alors, le projet de Macron, tu l'as dit, c'est de réarrimer la Russie à l'Europe, mais son projet d'architecture et de sécurité commune sent un peu le rance. C'est un vieux machin qui avait déjà été évoqué au moment de la chute du mur, l'extension vers l'Est de l'OTAN, voulue par les pays de l'Est qui avaient peur de Moscou, ils voyaient leur seule garantie de sécurité, et le revanchisme du Kremlin lui ont donné le coup de grâce. Alors aujourd'hui, on est dans cette situation où ce concept reste flou, et surtout, c'est ça le gros problème, il fait grincer des dents à nombre de partenaires européens, l'Allemagne, les pays de l'Est, et d'une certaine façon, il entre en collision avec l'autre grand projet macronien, qui est celui d'une souveraineté européenne toujours plus assumée et d'une autonomie stratégique.
Bon voilà, alors là, vraiment, le paysage et là, le décor est posé. On a 40 minutes pour évoquer toutes ces questions. Là, d'abord, je voudrais peut-être un premier avis un peu général sur cette tentative d'Emmanuel Macron. Est-ce que, alors évidemment, tout reste à faire, mais c'est déjà une formidable avancée que de voir cette réunion, Tatiana Castoué-Vajan, entre les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense, les quatre comme ça, ce format 2+2, c'est déjà quelque chose, c'est déjà bien.
D'une part, moi, je ne suis pas surprise de cette nouvelle ouverture d'Emmanuel Macron. Depuis 2014, en vérité, il multiplie des fenêtres d'opportunité, de discussions avec la Russie, etc. À Versailles, en fin mai 2017, c'était déjà le cas. Et il avait lancé, à la même occasion aussi, le format de dialogue entre les sociétés civiles, qui est appelé le dialogue de Trianon.
Oui, mais à Versailles, il avait été beaucoup, beaucoup plus ferme. Là, il est un peu plus dans le consensus.
Ce qui est surprenant, c'est plutôt le changement de tonalité et de termes qui sont employés. Déjà, dans l'interview au mois de juin aux médias suisses, il a parlé du geste militaire pour qualifier l'annexion de la Crimée. À Brégançon, il a parlé de plusieurs malentendus avec la Russie. Et je pense que la contradiction profonde de ce que Emmanuel Macron souhaite faire, c'est que lui qui prône la défense du multilatéralisme essaie de le réparer à l'aide d'un pays qui ne cesse de le défier depuis plusieurs années. Il y a aussi plusieurs dossiers de court terme qu'Emmanuel Macron souhaiterait, si c'est pas réglé, mais au moins avancé. L'Ukraine, Syrie, le deal nucléaire avec l'Iran. Et il se trouve que la Russie, non seulement importante en soi-même pour les relations bilatérales ou les relations Russie-Europe, mais c'est aussi la clé pour d'autres dossiers. Et j'ai aussi l'impression qu'Emmanuel Macron se situe dans le long terme, la vision stratégique, et il ne parle pas seulement à la Russie de Poutine, il parle à la Russie au-delà de Poutine. Et d'ailleurs, l'idée du dialogue de Trianon, parler à la société, entre les sociétés civiles et impliquer les jeunes, c'est aussi ça l'idée. Donc, il parle bien au-delà de Poutine, et c'est là qu'il faut situer tout le discours sur ne pas laisser filer la Russie dans les bras de la Chine.
On va finir ce tour de table avec vous, Cyril Brett. Alors, peut-être que c'est un petit peu fort de parler de virage pro-russe de Poutine. Jean-Yves Le Drian parle plus, lui, de fléchissement, mais il n'empêche qu'il se passe quelque chose. Comment vous analysez les choses, Cyril Brett ?
Bon, les auspices sous lesquels s'engage le dialogue sont positifs, mais pas plus. C'est déjà, effectivement... Ce n'est pas une reprise du dialogue, c'est disons la reprise du dialogue à un niveau interministériel 2+2, vous l'avez rappelé, qui est important, qui est symboliquement important, le rite qui est très important évidemment, de la rencontre entre les présidents, de la rencontre entre leurs subordonnés directs, donne une tonalité, une solennité, une importance à la reprise du dialogue que le dialogue n'avait pas depuis 2014. Il n'en reste pas moins que les points d'achoppement majeurs restent les mêmes. Évidemment, l'annexion de la Crimée, très évidemment, les défis lancés par la Russie à l'architecture générale de sécurité collective dans le monde et tout particulièrement en Europe. La conception que la Russie se fait et la conception que la France défend des libertés publiques, des libertés fondamentales, de la liberté des médias. Et sur ces grandes questions, un rapprochement n'interviendra peut-être qu'après Poutine ou dans le très long terme. Il n'en reste pas moins qu'à brève échéance, 5 dossiers au moins... nécessite des coopérations partielles, des convergences qui seront nécessairement imparfaites. Bon, Syrie, Iran, deal nucléaire iranien. On oublie souvent la Centrafrique.
On va en parler. Voilà. J'ai prévu d'en parler.
Et évidemment, la reconstruction d'un système de désarmement en Europe.
Très bien. Alors, tous ces points-là, on va les aborder. Maximo, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais si vous permettez, je voudrais vous poser une question à vous, parce que vous êtes responsable du diplo au Monde. Et il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais vous entendre, c'est que Emmanuel Macron, lors de sa conférence aux ambassadeurs, a parlé de l'état profond à propos de ce rapprochement avec la Russie, laissant entendre qu'il y avait un certain nombre peut-être de fonctionnaires qui étaient réticents à l'idée de ce rapprochement. J'aimerais avoir juste une idée, votre opinion sur la réalité d'abord de cette réticence et jusqu'où est-ce que ça peut poser problème dans le virage russe de Poutine. Vous qui connaissez bien ce monde de la diplomatie française.
D'abord, il ne laissait pas entendre, il disait ouvertement qu'un certain nombre...
Si, quand je vous parle de l'état profond, on n'est pas très très clair, Marcelo.
D'ambassadeurs, etc. et de diplomates.
Mais quand on parle d'état profond, on n'est pas limpide.
C'était formé dans l'idée que la Russie était un danger et que donc, d'une certaine façon, cet état, ce qu'il appelle l'état profond, alors le mot est bizarre dans la bouche d'un chef de l'État, puisque c'est un mot quand même qui a énormément de relents complotistes.
Qu'on entend chez Erdogan.
Voilà, oui, mais même pire, on entend dans tous les sites les pires de l'extrême droite américaine et autres, donc c'est assez bizarre de l'entendre dans la bouche du chef de l'État, mais ça visait ça. Alors, c'est pas nouveau non plus, parce que si on revient pendant ses premiers discours, aux ambassadeurs, justement, il avait évoqué les néoconservateurs. C'est-à-dire, Emmanuel Macron s'est toujours mis un peu dans une situation où, à la fois, sur beaucoup de choses, il est resté dans le sillage de ses prédécesseurs, et en même temps, il a marqué sa différence, accusant ses néoconservateurs, donc atlantistes, pro-américains, etc., d'avoir trop d'influence. Donc, c'est ça qu'il a mis en cause, c'est ça qu'il a dénoncé. Aujourd'hui, disons qu'il se sent les mains beaucoup plus libre là-dessus. Il veut faire ce pari à l'international. Le problème, c'est les contenus. Et, je vais faire murer là-dessus, dans la réunion qu'il y a eu des 2+2, ce qui était très frappant, parce que j'en ai eu les échos, c'est que les Français ont offert plein de choses sur ces 5 corbeilles. Alors justement, l'Ukraine, la Syrie, on va faire de la déconfliction, le cyberterrorisme, la lutte contre le cyberterrorisme, la question du désarmement, du contrôle des armements en Europe. Donc les Français offraient, Et les Russes disaient oui, c'est intéressant.
Mais n'offrent rien en retour.
Voilà, mais on verra. Il y a peut-être une dynamique qui s'amorce, on verra justement avec l'Ukraine. Mais pour le moment, on était dans une situation qui restait toujours assez inégale, où nous on offre et les Russes restent sur leur ligne intransigeante.
Bon, alors on rentre dans le dur, si je puis dire. Tatiana Kastovajan, parlons évidemment de ce dossier ukrainien. Maximo nous dit les Français proposent, les Russes disent oui, mais en fait il n'y a rien derrière. C'est vrai qu'il y a quand même un nouveau contexte, il y a un nouveau président qui est arrivé, Zelensky.
Le nouveau président qui a la plénitude du pouvoir après les élections parlementaires, ce qui est inédit dans l'histoire de l'Ukraine.
Absolument. Il y a évidemment ce signe très fort d'échange de prisonniers, 35 chacun cette semaine. Donc on voit bien qu'il y a peut-être le début d'un retour du dialogue russo-ukrainien qui est possible. Est-ce que là, effectivement, il y a un coup à jouer pour les Européens? Est-ce qu'ils peuvent obtenir quelque chose, évidemment, de Poutine?
Alors, sur l'Ukraine, je rejoins Maximo qui dit que la Russie n'offre pas grand-chose en retour, sauf à un seul point, c'est l'échange des prisonniers. Et je pense que sur pour faire bouger les choses, pour les accords de Minsk, ce qui est possible, c'est tout ce qui concerne la matière sécuritaire. C'est là, la Russie, donc avec l'échange de prisonniers, a montré les premiers signes de sa bonne volonté. Je pense que d'autres avancées sont possibles pour continuer l'échange de prisonniers. C'est pas la formule qui a été appliquée, c'est pas la formule tous contre tous, mais 35 contre 35. Même s'il y avait des noms symboliques comme Oleg Sentsov dans les personnes échangées, il y en a encore dans les prisons.
Cinéaste ukrainien.
Tout à fait. Il y a aussi donc continuer l'échange des prisonniers, améliorer les aspects humanitaires, les aspects sécuritaires. Et l'Ukraine aujourd'hui, en tout cas, donne des signes qu'elle est prête à avancer. Il y a l'adjoint du président ukrainien Zelensky, Yermak, qui a dit que l'Ukraine était prête au compromis difficile. Mais pour l'instant, aucun plan précis n'a été dévoilé. Et au mois de septembre, il y aura le format de Normandie.
C'est acté, ça ?
La date n'a pas encore été fixée. Je pense que les discussions sont en cours. Et pour moi, ce sera le sommet qui sera très très important. C'est en fonction du succès de ce sommet, des signes que la Russie va donner, que l'Ukraine va aussi réfléchir à la suite, parce qu'avant d'arriver au pouvoir, Vladimir Zelensky disait qu'il voulait changer le format de Minsk, il avait invité la Grande-Bretagne et les États-Unis, ce qui pourrait provoquer les blocages côté russe. Donc rien n'est gagné en matière politique, et surtout ça risque de buter sur le statut politique de Donbass, de cette région au sein de l'Ukraine.
Je rappelle, le format Normandie, c'est Russie, Ukraine, France, Allemagne, Maximo, puis Cyril Brett. Voilà, c'était ça. Cyril Brett.
Oui, sur l'Ukraine. La Russie est évidemment peu encline à aller au-delà de concessions humanitaires et symboliques, dans la mesure où son principal acquis, c'est l'annexion de l'Ukraine, de la Crimée en 2014, et que son rapport avec le conflit armé qui perdure, de façon latente et pas toujours latente dans l'est du pays, est plutôt destiné à prolonger les hostilités pour prolonger l'inconfort et du gouvernement qui vient plutôt que de trouver une résolution. C'est-à-dire que là, l'asymétrie est patente. D'un côté, la France veut le rétablissement d'une situation sécuritaire, militaire stable, alors que la Russie, elle, vise plutôt un conflit qu'on appelle souvent gelé, mais qui est en fait un conflit pourri, dans la mesure où il se réchauffe très régulièrement, fait des victimes, évidemment, le principal c'est les victimes humaines et matérielles, et des victimes politiques, dans la mesure où il suffit à la Russie ou à ses alliés sur place de déstabiliser le gouvernement de Kiev pour le discréditer. Et donc, en fait, le gouvernement de Kiev, le président Zelensky, particulièrement fort dans les urnes, dans les sondages, au Parlement, dans les médias, peut en quelques semaines perdre tout le crédit qui lui est donné. C'est tout l'enjeu du format Normandie et de la réunion à Paris, c'est-à-dire lancer sur le plan diplomatique la présidence Zelensky, ce Macron ukrainien, et essayer de le faire figurer comme un partenaire crédible, solide, pour pouvoir traiter avec les Russes.
Macron ukrainien, ils ont quand même finalement assez peu en commun, outre qu'ils ont à peu près le même âge, sinon c'est pas du tout les mêmes profils.
La nouveauté, évidemment, et puis la capacité à renouveler complètement l'échiquier politique. 75% du Parlement a été renouvelé en âge aussi, également.
Maximo.
Alors justement, est-ce que le problème dans les négociations au format Normandie avec l'Ukraine, c'est pas fondamentalement que d'abord, sur la Crimée, il est hors de question que les Russes reviennent en arrière sur l'annexion par la force, hein, la seule annexion par la force d'un territoire en Europe depuis 45.
Et d'ailleurs, la Crimée ne fait pas partie des accords de Minsk.
Et la Crimée ne fait pas partie des accords de Minsk.
C'est à la marge des négociations.
Voilà, comme selon une thèse chère à Tatiana, ça va être comme avec les pays baltes. Bon, on va jamais reconnaître l'annexion, ce qui empêchera pas les relations avec Moscou. Puis il y a le deuxième aspect, qui est effectivement le Donbass, donc les accords de Minsk. Mais il y a comme un problème de fond dans les accords de Minsk. Bon, Poutine veut le rapport de force, il le fait sentir. Mais quand bien même il irait jusqu'au bout des accords de Minsk, parce qu'ils sont en faveur de la Russie, c'est des accords qui ont été signés à un moment où l'Ukraine était en déroute. Bah, disons, les accords de Minsk, on va jusqu'au bout. Ils donnent politiquement un statut spécial au Donbass, et d'une certaine façon, un semi-droit de regard sur le destin de l'Ukraine, et notamment de ses alliances. Donc, d'une certaine façon, l'intérêt de Poutine... C'est d'aller même jusqu'au bout des accords, parce qu'il est gagnant. Le problème, ça va être pour les Ukrainiens.
Aujourd'hui, les leaders séparatistes ont changé de discours. Eux affirment clairement qu'ils souhaitent rester au sein de l'Ukraine. Et donc, pour être un peu plus explicite sur ce canal d'influence via ces régions-là, donc le scénario qui est à la base de l'accord de Minsk, c'est le statut spécial pour ces régions qui fera qu'il y aura des députés élus qui iront à la Rada suprême au Parlement ukrainien et qui vont avoir le droit de bloquer toute initiative concernant notamment les choix stratégiques, c'est-à-dire l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN de l'Ukraine, alors que c'est transcrit aujourd'hui dans la constitution ukrainienne. L'Ukraine a tranché, en quelque sorte, pour ses choix stratégiques et géopolitiques.
C'est vraiment toute la difficulté de la position politique interne du président Zelensky, et d'ailleurs de tout président ukrainien, ces gilets jaunes à lui, ce sont des gilets jaunes qui sont armés, qui reviennent du front. D'un côté, évidemment, il y a les séparatistes, mais de l'autre côté, il y a tous les vétérans du côté de Kiev, et qui regardent avec beaucoup de minutie, beaucoup de méfiance, toutes les concessions qu'ils pourraient octroyer à la Russie en termes de réformes institutionnelles, en termes de réformes constitutionnelles. J'en parlais il y a peu avec certains d'entre eux, une fédéralisation serait considérée comme une capitulation de la part du président Zelensky, et certains n'excluaient même pas que cette fois-ci on ait un nouveau Maïdan, mais qui, celui-ci, serait alimenté par des gens qui combattent. Et donc, la position du président Zelensky est très forte pour le moment, on ne peut que s'en réjouir, c'est une reprise de leadership démocratique très importante, un renouvellement de la classe politique ukrainienne, mais son capital politique peut s'évanouir très très vite, oui, si les concessions sont considérées à l'intérieur de l'Ukraine comme beaucoup trop favorables, en fait, aux intérêts de la Russie.
Tatiana Kastrovajan.
Pour abonder dans le sens de Cyril Brett, l'opinion publique ukrainienne, je la trouve assez paradoxale, en fait, sur le sujet de Donbass. Les Ukrainiens veulent aujourd'hui la paix. Ils sont 75, selon les sondages, à vouloir la paix avant l'amélioration de la situation économique et la lutte contre la corruption. Mais ce qui n'est pas clair, jusqu'où ils accepteraient, avec quels moyens, qu'est-ce qu'ils sont prêts à céder pour arriver à cette situation de la paix. Et le président ukrainien se retrouve un petit peu dans le double étau aujourd'hui. D'une part, donc, cette opinion qui réclame la paix et le règlement du conflit à l'est de l'Ukraine. D'autre part, les partenaires occidentaux qui les font pression. Donc lui, il montre tous les signes d'ouverture possible à l'égard de la Russie. Mais on ne sait pas jusqu'où, finalement, l'opinion publique va les laisser aller. Et on a vu les premiers signes de cette contradiction quand il était à Paris. Il discutait avec Emmanuel Macron. Il s'est permis même d'interrompre et de corriger Emmanuel Macron en disant non, on n'a pas prévu le dialogue direct avec les chefs séparatistes.
Marc Sémo.
Oui, alors pour élargir un peu le cadre, donc on parlait de ce projet d'Emmanuel Macron qui est extrêmement ambitieux. D'une certaine façon, Emmanuel Macron fait un espèce de pari gaullien. Alors on en parlait dans le lancement. Alors ce qui est même étonnant, parce que la phrase de De Gaulle, bon, nos auditeurs la connaissent, c'était l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Lui, il va plus loin, c'est l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est une utopie? Cette espèce de positionnement gaullien, quelque chose uniquement à usage politique intérieur français, où vous pensez l'un et l'autre qu'il y a quelque chose.
Cyril Brett.
Il y a un fil, une tradition, la reprise d'une tradition française. On ne va pas mentionner l'alliance franco-russe de 1892, mais il y a le fil que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande aussi, un bref instant en 2015, dans le sillage des attentats à Paris, a essayé d'esquisser un front commun avec la Russie contre les principaux défis sécuritaires et principalement contre le terrorisme. Ce que Emmanuel Macron, bien sûr, il a un agenda politique interne, c'est bien naturel, ce que Emmanuel Macron a en tête, c'est la reconstruction de l'organisation de sécurité et de coopération en Europe, issue des accords d'Helsinki, donc issue de la guerre froide, qui remplissait plusieurs offices. Le premier, évidemment, était le contrôle des armes et le contrôle de l'application des traités de désarmement, mais également d'autres corbeilles, le respect des libertés fondamentales, des coopérations économiques malgré la division du rideau de fer. Et cette OSCE est aujourd'hui en lambeaux. Elle est bloquée. Elle est bloquée, évidemment, essentiellement en raison des divergences d'approche sur l'Ukraine. Et il s'agit de trouver un forum, une organisation internationale où tous les acteurs stratégiques de l'Europe soient représentés, puissent discuter sans être surplombés par la double perspective apparaissant comme une menace à la Russie, qui est l'élargissement de l'Union européenne et l'élargissement de l'OTAN. Donc dans cette formule, je crois qu'il faut y voir la promesse, le souhait, peut-être le rêve en tout cas, de reconstruire cette architecture de sécurité et de coopération en Europe. Et il me semble que l'OSCE, ou ce qui va la remplacer peut-être, a tout à fait vocation à permettre de renouer un dialogue fructueux, parce que quotidien, technique, à un niveau infra-politique, et où la tentation des raccourcis médiatiques sera moindre.
Tatiana Castrovagens, sur cette vision de l'Europe de Macron qui irait au-delà de la vision gaullienne de l'Europe.
Oh, j'ai du mal avec la formule gaullienne, pourquoi l'Europe s'arrêterait à l'Oural, etc. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Parce que les Russes, depuis 2014, disent haut et fort quand même que vous, les pays membres de l'Union européenne, vous avez usurpé la notion de l'Europe. Nous aussi, nous sommes en Europe, mais en même temps, on regarde vers la Chine, et l'aigle bicéphale russe. Voilà, il y a aussi cet aspect, cette dimension asiatique que la dimension européenne. Qu'est-ce que ça comprend aujourd'hui cette formule? Est-ce que c'est la communauté culturelle? Oui, tout à fait, il y a des références communes, le mode de vie. Quand on voit où investissent les élites russes et où font les études à l'étranger, les Russes, c'est pas en Chine, c'est dans les pays européens. Est-ce que ça comprend la sécurité commune? Mais alors, qu'est-ce que ça comprend en termes très pragmatiques? Et qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN, dont la Russie n'a cessé de dénoncer l'élargissement vers les pays de l'ancien bloc socialiste? Est-ce que ça comprend les valeurs? Et quand on voit l'interview pour Financial Times accordée par Vladimir Poutine qui annonce la mort du libéralisme, etc. On peut aussi discuter qu'est-ce qu'il comprend par le libéralisme. Il a l'air d'y mettre seulement les problèmes des migratoires et les couples homosexuels. Est-ce que c'est une question de mentalité? Je pense que c'est une formule qui est un peu à l'emporte-pièce, qui on peut mettre beaucoup de choses, mais qui cherche surtout à souligner qu'il y a quand même la communauté des destins entre les pays, un certain nombre de défis communs, comme le terrorisme. Donc là-dessus, je dirais que c'est la plateforme la plus large possible pour ébaucher un début de consensus, pour pouvoir discuter de quelque chose.
Mais est-ce que réellement Vladimir Poutine croit en ce destin commun, ou est-ce que finalement c'est tout autre chose dont il est question du côté de Moscou, et peut-être en particulier une manière, en répondant à cette main tendue, de se sauver soi-même? Michel Tchernenov disait il y avait eu la même chose à la fin des années 80 avec Gorbatchev, qui avait répondu effectivement à la main tendue de l'Europe, au moment où
au contraire, à l'époque, c'était Gorbatchev qui tendait la main, qui parlait de l'Union commune.
C'est ce que j'ai dit. Pardon, excusez. Non, mais que là, du coup, précisément, Poutine répondrait d'une certaine manière aux avances, aux propositions européennes, parce que il se sent chez lui déstabilisé de l'intérieur. On a vu évidemment toutes les manifestations du côté de Moscou. On a vu l'année dernière quand même une baisse de sa popularité assez importante, même si elle a remonté depuis. Mais cette idée selon laquelle, au fond, ce rapprochement fin peut-être de Vladimir Poutine ne serait qu'une manière de s'éviter lui-même de prendre l'eau, quoi, d'une certaine manière.
Oui, alors, Cyril Brett. À mon avis, il ne faut pas surestimer.
Non, mais il y a beaucoup d'observateurs
la faiblesse. Oui, bien sûr, bien sûr. Le socle électoral, politique, administratif et économique sur lequel Vladimir Poutine est assis ne le place pas dans une situation de faiblesse telle qu'il aurait besoin d'Emmanuel Macron pour se refaire sur la scène politique intérieure. Je pense que ça n'est Bien sûr, il y a une part de lip service, une part de marketing politique de la part de Vladimir Poutine de feindre d'accepter cette main tendue. Il y a aussi la prise en compte d'une réalité économique qui est très forte. La Chine est très loin d'avoir supplanté l'Union européenne dans les échanges économiques et dans le commerce extérieur de la Russie. C'est bien l'Union européenne qui est le premier partenaire. La France, d'ailleurs, n'est pas si mal placée avec des grandes enseignes qui figurent dans le top 50 des entreprises en Russie et le quatrième partenaire commercial de la Russie actuellement. Donc c'est aussi la prise en compte d'une infrastructure économique très forte, d'une communauté de destin, c'est évident, et d'une communauté économique qui est elle aussi extrêmement puissante.
Tatiana, qu'est-ce que vous avez?
Vladimir Poutine a beaucoup de choses à reprocher à l'Europe. Tout au long de ses présidences, on voit bien comment les amertumes s'accumulent. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ses préoccupations sécuritaires, de s'être ingéré dans ses affaires intérieures en soutenant la société civile, etc., d'avoir une attitude moralisante, alors que l'Occident et l'Europe ne sont pas irréprochables eux-mêmes. Il reproche aussi les faiblesses financières et économiques, parce que les crises économiques de 2008 notamment sont venues aussi depuis l'Occident. Il reproche aussi à l'Europe, à l'Union européenne, d'être trop à la botte, vassalisée, c'est le terme qui est souvent utilisé, par rapport aux États-Unis. Je pense que Vladimir Poutine pourrait et voudrait discuter avec l'Union européenne, mais sans les Américains. Et le tournant vers la Chine, il est bien intérieur à toute cette confrontation avec l'Occident, mais qui lui donne quand même une impulsion supplémentaire. Aujourd'hui, la Chine, certes la France est la quatrième, mais la Chine c'est le premier partenaire commercial avec 15% du commerce extérieur russe. Mais en même temps, il y a des déceptions qui s'accumulent en matière d'investissement, etc. Donc je pense que Vladimir Poutine, au fond, réalise qu'il faut qu'il marche sur les deux pieds pour être stable, pour être bien positionné sur la scène internationale. Parce que nous, souvent, on a l'habitude de dire Vladimir Poutine est isolé. Mais pas du tout. Regardez, il parle très très bien avec beaucoup de pays, à commencer par les pays occidentaux, mais énormément avec les pays...
Avec le Moyen-Orient aussi.
Avec le Moyen-Orient, avec les pays asiatiques. Il y a les grands forums qui s'organisent. Et au mois d'octobre, il y aura aussi le grand forum Russie-Afrique.
On parlera peut-être justement de l'Afrique tout à l'heure. Allez, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est la bulle du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
vieux. Assis.
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian, bonjour à tous et à toutes.
Alors un dessin ce matin qui imagine l'envers du décor au fort de Brégançon.
Oui, il met en scène Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, rien que tous les deux. Deux hommes face à la mer, à l'abri des caméras et des oreilles des journalistes. Le président russe passe un bras rigide autour des épaules de son homologue français et lui demande « Et pour les droits de l'homme, tu comptes faire quelque chose ?» Emmanuel Macron serre les poings, mais ne dit rien. Cette caricature est signée J.O., un dessinateur de presse français. Elle a été publiée dans l'hebdomadaire Marianne fin août. Son titre, « Poutine aborde les sujets qui fâchent ». La question des droits humains reste en effet l'un des nombreux points de tension entre les deux hommes. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ne l'ont pas caché lors de la conférence de presse au fort de Brégançon. À cette occasion, le chef d'État russe a inévitablement été interrogé par les journalistes sur les arrestations massives et les interpellations violentes lors des manifestations à Moscou cet été. Et il a pris un malin plaisir à tacler le président français en évoquant le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce que rappelle ce dessin. À Brégançon, devant la presse, Emmanuel Macron s'en est sorti avec une pirouette. « Comparaison n'est pas raison », a-t-il dit avant de préciser que la France a toujours respecté sa constitution et les droits du Conseil de l'Europe, sous-entendu contrairement à d'autres. Un petit froid est jeté, mais pas au point de nuire au réchauffement de leurs relations. Alors peut-être que ce dessin pose une autre question, en creux. Emmanuel Macron restera-t-il ferme sur cette question cruciale des droits humains ou mettra-t-il un peu d'eau dans sa vodka afin de ne pas compromettre le rapprochement franco-russe ? Enfin, ce dessin où les rôles sont inversés, où Vladimir Poutine donne des leçons de démocratie, c'est également un commentaire sur la situation en France. Il rappelle que même si comparaison n'est pas raison, Emmanuel Macron a lui aussi été interpellé sur la question des droits humains dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes, que ce soit en France, en Égypte lors de sa visite officielle au Caire en janvier, ou par l'ONU qui a demandé en mars dernier à Genève une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force.
Merci beaucoup Hélène. François, donc, pour ce dessin qu'on retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. On va le publier sur le fil Twitter de Culture Monde. Réaction peut-être, Cyril Brett, Tatiana Castrovejon. C'est vrai que c'était un échange assez, assez cocasse, hein, autour de cette question des gilets jaunes où Poutine fait effectivement la leçon à Macron en disant, mais vous aussi, hein, vous avez vu, vous avez même eu des morts, nous pas un mort.
Oui, c'est un leitmotiv des médias russes depuis les événements des Gilets jaunes, de considérer que la France est une donneuse de leçons qui applique un double standard. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça a été relevé. Ce n'est pas le seul pays à critiquer la France dans son rapport aux Gilets jaunes. Et d'ailleurs, certains alliés ou certains États membres de l'Union européenne ne s'en sont pas privés. C'est exactement le même reproche qui est adressé en Pologne, par exemple.
Tatiana Castrovejon, réaction sur le dessin.
Depuis 2014, Vladimir Poutine prend les choses toujours à l'envers, met le miroir devant le visage occidental européen en disant « Regardez ce qui se passe chez vous ». Le passage sur les Gilets jaunes était programmé, attendu au programme et presque inévitable. Mais, et il a été d'ailleurs beaucoup repris sur les réseaux sociaux français. J'étais frappée de lire les commentaires sur Twitter quand la diplomatie française, le Quai d'Orsay, ont publié la déclaration protestant contre les violences policières à la suite de plusieurs manifestations de cet été. Et justement, les commentaires portaient là-dessus, sur les gilets jaunes. Alors que tout le contexte, le cheminement qui mène aux images qui sont semblables est complètement différent. Les protestataires à Moscou ont eu un comportement pacifique. Ils ont veillé à ne pas piétiner les pelouses, ce qui leur est reproché aujourd'hui. Il y a des amendes que la ville de Moscou essaie d'imposer pour faire rembourser, soi-disant, les pelouses piétinées. Et les violences qu'ils ont commises à l'égard des forces policières consistent à jeter les verres en carton, une poubelle ou d'essayer d'ouvrir la visière d'un policier. Donc l'échelle n'est vraiment pas comparable. Et donc les violences policières qui ont eu lieu n'ont rien à voir. Ce n'est pas une réaction par rapport à ce que faisaient les manifestants, mais c'est vraiment, il y a un fond politique derrière tout cela.
Alors, Cyril Brett, venons-en si vous voulez bien à l'un des sujets évidemment qui a probablement été au cœur des discussions en début de semaine avec ces quatre ministres, la question du contrôle des armements. Il y a eu évidemment, on s'en souvient, là maintenant est appliqué depuis début du mois d'août ce retrait unilatéral américain du FNI, le traité sur les armes nucléaires intermédiaires qui est donc maintenant effectif. Alors on sait bien sûr que du côté de Donald Trump, il y avait cette idée que la Russie ne respecte pas. Mais il y a aussi la question de la Chine qui en développe beaucoup, donc c'est aussi une réponse à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a, là, il y a un sujet avec la Russie sur le contrôle des armements. Est-ce que la Russie est disposée à en parler? Est-ce qu'il y a des propositions françaises qui ont été faites? Est-ce qu'elles pourraient être entendues du côté russe? Cyril Brett.
Que la Russie soit prête à faire des concessions sur le réarmement, j'en doute assez fortement. Sur le désarmement, j'en doute assez fortement, dans la mesure où la rhétorique est symétrique entre États-Unis et Russie. Désarme d'abord, et tant que tu ne désarmes pas, je réarmerai. Le plan de modernisation des forces armées russes est en place depuis 2009. Ça fait corps avec la deuxième grande décennie de pouvoir pour Poutine, et ça fait partie intégrante du rétablissement de la fierté nationale en reconstruisant son complexe militaro-industriel et d'une façon très énergique, en relançant des coopérations dans le domaine de l'armement avec l'Inde, la Chine, éventuellement la Turquie, la Russie, nous les alliances de revers que on a déjà mentionnées qui lui permettent de s'affranchir partiellement de sa dépendance à l'égard de l'Europe. Donc les propositions françaises sont des propositions qui sont pour le moment classiques. Relancer le processus de désarmement, de réduction des armes, les mesures de réassurance, comme on les appelle, c'est-à-dire de contrôle mutuel du positionnement et du type d'armes. Il faut inverser, en fait, pour pouvoir entrer dans cette logique, il faudrait inverser le paradigme de la méfiance réciproque dans lequel la Russie évolue depuis maintenant plusieurs décennies, persuadée qu'elle est que le but des Occidentaux est de se rapprocher le plus possible de ses frontières en élargissant l'OTAN et de la tenir, grâce à cette rhétorique du deux poids, deux mesures, dans une infériorité militaire surplombée par la présence des troupes américaines, canadiennes, françaises dans l'espace baltique, dans l'espace de la mer Noire et également dans l'espace stratégique des missiles. Donc cette architecture est vraiment complètement à reconstruire et ce ne sont que les premiers balbutiements qu'on a pu voir lundi dernier.
Tatiana Castrevajan, est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose en la matière sur le contrôle des armes? Cyril Brett a l'air d'en douter un tout petit peu, et puis je poursuis du coup, je vais avancer, puisqu'il n'y croit pas. Est-ce qu'on peut imaginer une forme de coopération peut-être un tout petit peu différente? Et c'est là où on peut peut-être évoquer la question de la Centrafrique, parce que ça fait maintenant un certain temps qu'on voit bien que les Russes se sont positionnés sur ce conflit-là. On l'interprète depuis des mois en disant, bon voilà, c'est de l'ingérence, et puis c'est fait pour embêter les Européens. C'est un sujet qui a été évoqué là en début de semaine. Est-ce qu'on pourrait imaginer une coopération militaire, par exemple, entre l'Europe et la Russie, pourquoi pas, sur ce théâtre africain ?
Sur le contrôle des désarmements, je pense que c'est très, très flagrant depuis l'arrivée du président Trump au pouvoir, et Vladimir Poutine était déjà dans cette optique. C'est dans l'idée de contraindre l'autre tout en ayant les mains libres. Et le résultat de cela, c'est qu'on arrive aujourd'hui à une situation où les filets de sécurité, comme le traité FNI sur les forces intermédiaires, sont inexistants, et la situation est en quelque sorte est moins stable que pendant la guerre froide, où il y avait quand même les règles du jeu. Après, moi, je doute que ces questions, au-delà de déclarations, puissent être vraiment réglées au niveau bilatéral. Ça implique quand même, avant tout, et surtout, les États-Unis. Il y a aussi cette posture russe qui consiste à discuter avant tout les États-Unis des sujets de cette nature-là. Et vous l'avez mentionné, la question de l'absence de la Chine dans la négociation de ces traités, c'est quand même un énorme problème. Donc, les déclarations de bonnes intentions, le travail diplomatique habituel, etc. Mais faut pas s'attendre à des résultats spectaculaires à court terme. En ce qui concerne le Centrafrique, je voulais rappeler que le ministre Le Drian a eu un propos très dur vis-à-vis de l'action russe en la qualifiant d'anti-française. Et la Russie y agit via les compagnies militaires privées, ce qui laisse toujours la possibilité de nier son implication et son présence, ce qui rend la discussion quand même extrêmement difficile. Donc, pour l'instant, je ne sais pas ce qui peut en sortir de concret en termes de coopération, mais d'une manière générale, la Russie cherche à revenir sur ce continent qu'elle avait déserté, en quelque sorte, après la chute de l'URSS. Il y avait d'autres dossiers bien plus urgents. Mais aujourd'hui, il y a des débuts, des ébauches, des stratégies économiques, politiques, aussi de présence médiatique, aussi de présence des acteurs non gouvernementaux, qui marquent quand même qu'il y a une réflexion et que l'Afrique, c'est un terrain d'opportunité économique, militaire, parce que la Russie cherche des emplacements pour des bases militaires sur ce continent. C'est aussi un moyen géopolitique d'avoir des gouvernements amis qui partageraient certaines visions géopolitiques de la Russie.
Cyril Brett, en quelques mots.
Sur ce continent, la stratégie russe est complètement différente de celle qu'on peut voir dans les dossiers qu'on a déjà évoqués. C'est vraiment un ensemble de tactiques d'opportunité. Minières, effectivement, en utilisant des compagnies de sécurité privée, bon, des mercenaires en gros, mais qui ne pourraient pas agir sans l'aval du pouvoir politique, des infrastructures, pour essayer de tenter des coups, en fait, de trouver des opportunités en se réappropriant l'héritage soviétique, mais en l'envisageant sous un angle complètement différent, qui n'est pas du tout la constitution d'un bloc, et qui est à la fois de défendre ses intérêts au loin et de gêner, évidemment.
Mais est-ce qu'on peut imaginer une coopération militaire entre Paris et Moscou?
Pour le moment, l'asymétrie est telle entre sécurité privée et présence de l'armée française qu'on peut seulement espérer que les frictions ne conduiraient pas à de véritables affrontements entre les forces en présence.
Et surtout sur ce point, c'est la France qui est demandeuse.
Oui.
Le Drian disait c'est une action anti-française. Aujourd'hui, la France est demandeuse. Ce genre d'attitude n'est pas en général très porteur vis-à-vis d'une diplomatie russe qui ne connaît que le rapport de force. Cross the Trans-Siberian Plain. He can power a nuclear reactor with the left side of his brain. And when he take his shirt off, he drive a lady crazy. When he take his shirt off, make me wanna be a lady. It's the Putin girls.
Poutine, un titre de Randy Newman pour fermer cette page. Merci beaucoup à nos invités. Tatiana Castrevajan, je rappelle que vous êtes directrice du Centre Russie, Nouveaux États indépendants de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci également Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris et puis co-auteur de ce blog Eurasia Prospective.net. Merci beaucoup Marc Seymour, rendez-vous vendredi prochain.